jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme tous les jours par Perrine Suquet avec Charlotte Méritant. C'est François Touchard qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une affaire dont on n'a pas parlé en France, en tout cas depuis un bon nombre maintenant d'années. Il faut bien, on compte en années. C'est l'affaire de ces deux petites filles suisses âgées de 6 ans, des jumelles, qui avaient été enlevées par leur père au début de l'année 2011. Il y avait un contexte de divorce conflictuel et Mathias Schepp, c'est le nom du père, avait quitté la Suisse donc avec ses deux fillettes et il était parti. Alors on avait suivi ses traces à travers la France, notamment à Annecy, à Lyon, à Marseille, en Corse également, parce qu'il aurait pris parce qu'il y a eu des témoignages qui l'ont confirmé, un ferry avec ses deux enfants pour la Corse. Et puis ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de ses petites filles. Et lui-même s'est jeté quelques jours plus tard en Italie sous un train. Alors, cette affaire, pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce que, je le disais d'ailleurs tout à l'heure à Vincent Parisot et Christelle Robière, c'est aujourd'hui la journée internationale des enfants disparus. Et à ce propos, on fera le point sur une association française qui est CFPE Enfants Disparus, qui gère pour la France le fameux numéro 116 000. Et nous avons une représentante juriste chargée de dossier pour le 116 000. Bonjour Ludivine Macanda.
Bonjour.
Et vous êtes donc vous spécialiste d'ailleurs des cas d'enlèvement parentaux, je crois.
C'est ça, exactement. Voilà. Les cas d'enlèvement parentaux en France comme à l'international.
Alors évidemment, vous connaissez l'affaire des jumelles, vous connaissez beaucoup d'affaires d'enfants disparus.
Oui.
Juste un mot peut-être sur cette journée internationale qui a lieu aujourd'hui. C'est à la suite d'un drame terrible qui s'est produit à New York.
C'est ça, aux États-Unis, le cas donc d'Ethan Patz, qui avait été donc enlevé à l'âge de 6 ans.
En 1979.
En 1979, exactement. Voilà. Et 33 ans plus tard, le meurtrier a finalement avoué son acte.
Voilà. Et aux États-Unis, c'est le président Reagan, je crois, qui avait, en l'honneur de cet enfant disparu, fait du 25 mai la journée, une journée mondiale.
C'est cela. Et voilà. C'est la première fois donc qu'on a pu voir la photo d'un enfant disparu sur des bouteilles de lait, par exemple, aux États-Unis.
Alors, en fin d'émission, on se retrouvera beaucoup plus longuement pour justement que vous puissiez nous dire de quelle manière ce service, parce que c'est un service finalement, qui est au service des familles. Que faire en cas d'enlèvement parental? Que faire en fait pour que ça n'aboutisse pas à des drames dont celui dont on va parler, quoi. Hein, voilà. Et puis d'ici là, évidemment, si vous avez des réflexions, des questions sur l'affaire dont on parle, vous êtes chez vous. Je vais saluer mes autres invités, à commencer par Arnaud Béda. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Illustré, en Suisse. Alors évidemment, vous avez suivi toute cette affaire pour votre journal. J'ai envie de vous poser une première question. Est-ce qu'on parle encore de l'affaire en Suisse? Et puis surtout, Irina, la mère des enfants, dans quel état d'esprit est-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle a encore de l'espoir?
Alors Irina, je crois, n'a plus beaucoup d'espoir. Elle recherche plutôt, malheureusement, ses jumelles mortes plutôt que vivantes.
Pour leur donner une sépulture. En fait.
Voilà, pour donner une sépulture, plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise. Elle a beaucoup, beaucoup de courage. C'est une femme admirable. Elle a aujourd'hui un compagnon dont elle a un peu parlé aux médias. Elle essaie de se reconstruire. C'est pas simple. Elle a aussi une association pour les enfants disparus, pour aider les parents qui se trouvent dans des situations similaires à la sienne. Et c'est vrai que cette histoire, on en parle peut-être moins en Suisse par la force des choses, mais chaque jour il y a un drame, il y a quelque chose qui nous rappelle.
Elle a imprimé la mémoire collective.
Et regardez encore aujourd'hui, j'ai lu dans les journaux ce matin ce drame à Thonon, cet enfant disparu et ce papa qu'on recherche. C'est l'autre côté du lac, c'est vraiment l'autre.
Sorte d'écho à ce qu'on va dire. Alors on se retrouve dans un instant parce qu'on va rentrer ensemble dans les enquêtes, pas dans l'enquête, mais dans les enquêtes, parce que il y a eu une collaboration entre la police suisse, la police française, la police italienne. Raphaël Bantard, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas venu de loin, de la rédaction d'RTL. Vous avez suivi cette affaire à l'époque pour la rédaction.
Effectivement, j'étais correspondant à Strasbourg et c'est moi qui ai été envoyé, étant quasiment presque le plus près géographiquement.
On avait retrouvé la trace à Annecy. Annecy, hein, je crois.
Exactement. Et moi, mon objectif au départ était de retrouver un petit peu et de suivre au plus près de la famille, en fait, ce dénouement tragique. Et c'est pour ça que ça a été une affaire qui est aussi marquante du côté journaliste. Hein, c'est qu'on a suivi le périple meurtrier et le dénouement tragique pour toute cette famille qui a attendu jusqu'au bout et qui attend toujours ces deux fillettes.
Ouais. On peut revenir ensemble en quelques secondes sur la situation familiale de ce couple à l'époque. C'est un divorce conflictuel et difficile. C'est-à-dire, c'est un homme, Mathias Schepp, qui n'accepte pas l'idée du divorce.
Effectivement, ils sont séparés depuis quelques mois, depuis l'été. Hein. On est au mois de janvier, fin janvier, lorsque l'enlèvement se produit. Ils sont séparés depuis août. La maman, Irena, dira plus tard qu'effectivement, elle ne supportait plus son homme psychorigide et qu'elle a fini, après des essais de thérapie, après beaucoup d'essais pour ressouder le couple.
Elle a quitté le domicile conjugal.
Elle a quitté, elle a pris un appartement au centre de cette petite ville de Saint-Sulpice. Un petit village qui est au bord du lac, un petit village magnifique, hein, verdoyant, très 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 joli. Elle a quitté cette superbe villa qu'ils avaient ensemble, cette superbe vie aussi qu'ils avaient ensemble tous les deux, parce qu'elle ne le supportait plus et lui ne le supportait pas. Et quelque part, ce qui sera peut-être le déclenchement de cette terrible affaire, c'est ces papiers de divorce qu'elle envoie par mail.
L'avocat, la lettre de l'avocat.
Avec le mot divorce dedans, c'est quelque part ce qui déclenche tout.
Alors, on va en venir au fait, c'est-à-dire nous, on apprend tout ça, en fait, dans les médias, à partir du 6 février, alors que l'enlèvement a eu lieu le 30 janvier, le 6 février, sur RTL, c'est Vincent Derosier qui rappelait les circonstances de cette affaire que tout le monde découvre à ce moment-là, et qui fait le point sur les premières pistes suivies par les enquêteurs. Écoutez, c'était dans RTL Matin.
Cela fait 7 jours aujourd'hui que la mère d'Alicia et Livia est sans nouvelles de ses petites filles de 6 ans. Elles mesurent 1m15, portent de longs cheveux blonds et ont été vues en vie pour la dernière fois en Suisse chez leur père. C'était le 30 janvier. Depuis, plus rien. Les enquêteurs savent que leur père, âgé de 43 ans, a volé la voiture de son ex-compagne. Il aurait roulé jusqu'en France, à Annecy, Marseille, Toulon, puis vers le sud de l'Italie où il s'est suicidé. Un itinéraire beaucoup trop vague pour Jean-Christophe Sautrel, porte-parole de la police cantonale suisse.
Les seuls éléments concrets qu'on a, c'est Marseille et Toulon. Donc là, il y a un certain nombre de recherches qui sont effectuées, mais il y a des recherches qui sont effectuées en Suisse. Il y a des recherches extrêmement importantes qui sont effectuées en Italie, mais on n'a pas d'éléments qui permettent d'orienter les recherches de manière plus précise.
Les appels à témoins n'ont rien donné?
Rien pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on a véritablement besoin de la collaboration du public sur les lieux où ce père et ses deux jumelles auraient pu éventuellement dormir, où ils auraient éventuellement pris de l'essence, où ils se seraient restaurés, est-ce qu'ils sont allés dans un hôtel?
Aucune piste n'est écartée par les polices européennes qui continuent d'enquêter sur les déplacements du père pour orienter leurs fouilles. En France, l'enquête a été confiée à la police judiciaire marseillaise pour disparition inquiétante de mineurs.
Et à cette époque, le procureur de Marseille, c'est Jacques Dallest. Bon, il a quitté maintenant cette ville de Marseille, mais nous allons faire avec lui le point sur l'enquête en France. Donc, puisqu'on le disait, il y a eu collaboration de trois polices, suisse, française et italienne, dans cette affaire. Et Jacques Dallest sera avec nous en ligne dans une petite vingtaine de minutes. Voilà. Bien sûr, si vous avez des questions, des réactions, des témoignages sur cette affaire, vous pouvez nous joindre par le 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou alors par courriel sur rtl.fr.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Émission spéciale de l'heure du crime à l'occasion de cette journée internationale des enfants disparus. On parle de ces deux petites filles suisses, des jumelles, 6 ans, enlevées par leur père qui va au début du mois de février, alors qu'elles ont été enlevées le 30 janvier, au début du mois de février, il va se jeter sous un train, mais on ne trouvera pas trace des enfants. Alors il y a eu toute une sorte de jeu de piste. Alors d'abord là je m'adresse aux deux journalistes, à Arnaud Béda et Raphaël Vantard d'RTL. Dans une affaire comme celle-là, et toujours de bonne foi, on signale les enfants qu'on cherche un peu partout. Enfin, la police est débordée, même quelquefois au départ, d'appels qu'il faut vérifier.
Effectivement, il y a une foultitude d'appels qui arrivent à ce moment-là à la police, qui va être beaucoup reprochée, hein, quelque part aux Suisses, c'est d'avoir mis un peu de temps à démarrer, à prendre au sérieux cet enlèvement. Il y a une phrase qui est dite, hein, effectivement, à Irina, où on lui dit « Vous inquiétez pas, votre mari va rentrer, quoi ». Et que c'est un peu ce qui va être reproché et qui va être un peu le filigrane tout au cours de cette enquête.
Ça va retarder les vrais investigations.
Entre le départ et le bout, et le moment où la grosse artillerie est déclenchée, où on lance une opération coordination avec toutes les polices et de France et d'Italie. Il y a un petit temps, un petit temps qui sera peut-être le temps de trop.
Ouais, je vous ai vu réagir, Ludivine Macanda.
Si je peux me permettre, c'est vrai que c'est une phrase, malheureusement, qu'on entend beaucoup dans les cas qui arrivent jusqu'à nous, aux 116 000.
Il va revenir,
vous inquiétez pas, il ou elle va revenir.
Et le verbatim est pire que ça, c'est vous en faites c'est pas, votre mari n'est pas brésilien, c'est un bon Suisse, il va revenir. Le verbatim exact, c'est ça.
C'est vrai que la nationalité aussi du parent qui part avec l'enfant joue aussi beaucoup sur la réaction qu'aura parfois les services d'enquête qui seront confrontés à ces cas-là.
Ouais, c'est quelque chose, donc, ça vous évoque plein d'histoires que vous connaissez. Quoi,
c'est
en fait,
ça, ouais. Énormément de dossiers que l'on peut suivre.
Ouais. Alors que tout est anormal à l'époque. Enfin, au moment où les jumelles partent, il ne les ramène pas le soir.
Il y avait une garde alternée, c'est ça,
qui le fait tout le temps. Là, il ne les ramène pas le soir, il ne donne pas de nouvelles. Voilà. Il fait croire qu'il est chez des proches, alors que c'est quelqu'un qui a une vie sociale assez faible. Il y a tous les signaux, signaux sont au rouge. Hein.
Et il est parti avec la voiture de sa femme ou
pas? Avec sa propre voiture.
C'est sa propre voiture, d'accord.
La dernière trace vivante des jumelles, c'est 13h à Saint-Sulpice.
D'accord.
Et il va rechercher ses jumelles chez un voisin qui les gardait. Et ce qui frappe le voisin, c'est que Mathias a des chaussures pleines de terre. C'est un détail intéressant.
Donc, c'est un détail intéressant parce que, évidemment, les policiers vont travailler sur toutes les hypothèses possibles, mais dont celle-là. N'a-t-il pas tué les enfants avant de prendre la fuite ?
Ça va rester une des hypothèses qui est encore d'actualité, parce que quelque part, en fait, effectivement, le seul témoignage visible de ces deux fillettes, ça restera 13h en Suisse. Après, ce ne sont que des témoignages.
Oui. Arnaud Béda, il y a eu, vous disiez hors micro, un épisode à Marseille. Vous pensez à quoi ?
C'est-à-dire que donc, le dernier, c'est 13h. Ensuite, on a sa trace à 15h50 à Morges, à côté de Saint-Sulpice. Donc il y a quand même 2h, 2h30 de battement. On ne sait pas très bien.
On est toujours en Suisse là.
Voilà, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Les doudous des deux jumelles
sont retrouvés.
Sont retrouvés dans l'appartement. Oui. Et ensuite, donc c'est la folle cavale vers l'impossible, comme on l'a appelé. Annecy, Montélimar, Marseille. Et à Marseille, il stationne.
Pardonnez-moi, on sait tous ces épisodes parce qu'il a pris de l'argent ou parce que.
Oui, parce qu'il y a eu des tickets d'autoroute.
Des tickets d'autoroute.
Et il y a eu des traces aussi avec son téléphone portable.
D'accord. Oui.
Et il se retrouve à Marseille dans un parking près du port. Là, il y a une caméra de surveillance qui le filme très distinctement. Il stationne
avec
sa voiture.
Avec les enfants ou seul ?
Alors non, on ne voit pas les enfants. Donc il entre dans sa voiture, il en ressort seul. Il passe à peu près 2h, 2h30 à Marseille sur le port où il fait différents retraits dans les distributeurs de banques et il retourne à sa voiture et on n'a pas trace des jumelles. Et ensuite, c'est l'épisode évidemment de l'embarquement sur le ferry.
Alors ça, on va en parler d'ailleurs tout de suite. C'est alors, il y a des gens qui, de très bonne foi, sont persuadés qu'ils ont vu cet homme et les deux enfants, à la fois sur un ferry entre Marseille et Propriano, et à Propriano, donc, qui est la ville escale de ce bateau, qui poursuivait ensuite son voyage vers la Sardaigne, je crois, à Propriano, il y a également eu des témoignages de gens, de commerçants notamment, ou de gens qui faisaient leurs courses, qui disent « mais on a vu cet homme avec les enfants ». Évidemment, il n'y a pas de preuves matérielles objectives, aucune caméra de surveillance en Corse, enfin, il n'y a rien d'autre
aucune
que des
trace ADN,
suppositions.
Y a rien. Bon.
Alors, on en parle, et puis on verra ce qu'il faut en penser après. C'est le 10 février qu'on commence à parler de cette possibilité-là. Et Étienne Baudu, donc, qui est notre correspondant à Marseille, mais Marseille, c'est pas loin de la Corse, faisait le point sur ces premières rumeurs sur lesquelles on allait beaucoup revenir dans les jours suivants.
Selon nos informations, les enquêteurs de la PJ en Corse ont entendu deux témoins, un homme âgé et une femme. Ils se seraient manifestés après avoir lu l'appel à témoins paru dans le quotidien Corse Matin. Ils affirment tous les deux avoir aperçu Mathias Schepp et ses jumelles sur le port de Propriano après avoir débarqué du ferry en provenance de Marseille le mardi 1er février au matin. L'homme les aurait vus dans un commerce. Des témoignages très importants, évidemment, qui réfuteraient l'hypothèse d'un scénario macabre sur le navire entre Marseille et la Corse, évoqué un temps au cours des investigations. Des témoignages, en tout cas, que les enquêteurs prennent au sérieux parmi ceux qu'ils ont reçus et suffisamment fiables pour lancer des recherches aux alentours de Propriano. Hier après-midi, un terrain vague, par exemple, longeant la plage de Baracci à la sortie de la ville en direction d'Ajaccio, a été ratissé par les gendarmes, sans résultat pour le moment. Enfin, il reste de nombreuses zones d'ombre dans l'emploi du temps du père. Durant la période allant du mardi matin à son arrivée en Corse jusqu'au jeudi midi où il se trouvait dans la région de Naples avant de se donner la mort le jeudi soir. On ne sait par exemple toujours pas quand et comment il a quitté la Corse et bien évidemment avec ou non Alessia et Livia. Les enquêteurs comptent toujours sur de nouveaux témoignages tant à Marseille qu'en Corse.
Alors, Raphaël Vantard, ces témoignages n'ont pas été corroborés par d'autres éléments. Hein,
c'est exactement ça. C'est que les enquêteurs les ont beaucoup écoutés, ont essayé de retrouver ces personnes-là, les ont entendus, ont essayé de retracer à partir de leurs témoignages où est-ce que les trois, Mathias et les deux filles, avaient pu passer. Oui. Et ce qui est apparu au fil du temps, c'est que ces témoignages étaient peut-être un peu plus bancals que ça. Il y a même un pompier qui a dit avoir aperçu le véhicule un peu plus loin. Oui. Et on s'est vite aperçu qu'il y avait un autre véhicule break, une assise pareille.
Il avait confondu de bonne foi, mais
C'est des témoignages de bonne foi, mais qui peuvent se tromper, effectivement.
Alors, il y avait eu aussi, de mémoire, parce que j'ai revu tout le dossier ce matin pour préparer l'émission, deux personnes qui étaient des passagers de ce ferry, le Scandola, et qui, dont une personne qui disait, mais ils étaient dans la cabine voisine de la mienne et j'ai entendu des pleurs d'enfants.
Des pleurs, effectivement. Ouais. C'est deux témoignages qui sont assez marquants, qui peuvent montrer qu'effectivement, peut-être, ces deux fillettes étaient à bord et que c'est à bord que s'est produit le drame.
Oui. On peut aussi imaginer que Mathias a brouillé les pistes, c'est-à-dire en prenant trois billets et pas un seul.
Voilà, parce qu'il est incontestable qu'il a pris des trois billets aussi.
Et qu'il n'en a pris qu'un au sortir de la Corse, entre Bastia, quand il repart de Corse.
Ça, on va en parler dans un instant, de son retour. Alors, sur RTL, là, on est toujours à la même date du 10 février. En Corse, une habitante de Propriano est sûre d'avoir aperçu les jumelles et leur père. Elle raconte certaines à notre correspondante en Corse, Vanina Leca.
J'ai rencontré deux petites filles qui avaient des pains au chocolat ou des croissants. Et puis, il y avait une dame et un monsieur. Ils discutaient, et moi, je traversais. Et je les ai bien vues discuter. Je me suis dit, comme ils sont belles, ces petites filles. Une, elle avait un bonnet blanc avec des rayures roses. Et les petites filles, d'après moi, je suis pas sûre, mais 95% que ça aurait été ça. Et le monsieur, 100%. Mais ça m'a fait un tilt quand j'ai entendu à la télé que ces petites filles auraient disparu. Et je me suis dit, on dirait que c'était les petites filles d'hier que j'ai vues. S'il leur arrivait quelque chose à ses enfants, je suis mère de famille et je comprends la douleur d'une mère. Ça me fait mal.
Alors, il y a eu d'autres investigations en Corse. On va en reparler dans quelques instants après une pub, parce qu'on peut se demander, mais pour quelle raison il serait allé en Corse, en fait. Et les enquêteurs ont découvert qu'en 2008, là, c'était au moment, on va dire, du bonheur, quoi. Hein, en 2008, ils avaient fait une traversée en voilier de Saint-Raphaël à la Corse, à Bonifacio, je crois, en voilier, Irina et lui. Et puis, ils avaient fait du cabotage le long des côtes donc corse, et évidemment les enquêteurs se sont dit, mais s'il est allé avec les enfants et s'il les a tués sur place, où les aurait-il enterrés? Peut-être dans des endroits qu'ils auraient fréquentés, Irina et lui, à l'époque, en 2008. On en reparle tout à l'heure.
Et l'heure du crime sur RTL.
Les invités de l'heure du crime aujourd'hui, deux journalistes qui ont suivi l'affaire des deux petites filles jumelles enlevées par leur père en Suisse, qui par la suite s'est suicidée en se jetant sous un train en Italie, et entre-temps on n'a plus retrouvé jamais la trace des deux fillettes, dont évidemment avec le recul du temps maintenant tout le monde pense que elles sont mortes, mais où est-ce que il a tué ses enfants avant de partir pour cette espèce de cavale à travers la France, direction, et puis la Corse, et puis ensuite l'Italie. Est-ce qu'il a tué ses enfants en Suisse, ou est-ce qu'elle ne serait pas décédée dans d'autres circonstances? Alors, ce sont des questions, évidemment, que je vais poser dans un instant à un autre invité dont je vous ai parlé au début de l'émission, et qui est en ligne maintenant, c'est Jacques Dallest, qui est procureur général à la Cour d'appel de Chambéry actuellement, et qui, à l'époque de l'affaire, était procureur à Marseille. Avec lui, on fait le point sur l'enquête. Bonjour, monsieur Dallest.
Bonjour, monsieur Pradel.
Merci d'avoir pris un peu de temps. Je sais que vous êtes là, entre la France et la Suisse, d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Parce qu'il y a eu la collaboration des trois polices concernant la France. Est-ce qu'on a, sinon des certitudes, au moins quand même des indications qu'on ait vu ces petites filles en France?
Et non, c'est bien le problème, le grand drame de cette terrible affaire, c'est qu'après un gros travail d'enquête mené avec les policiers suisses, les policiers français, nous n'avons aucune certitude sur la présence des petites, des fillettes, avec leur père, sur le territoire français, c'est-à-dire entre Lausanne et la Corse. Ouais. On a des témoignages, des éléments troublants, mais aucune preuve absolue. C'est vraiment le problème central de ce dossier.
Ouais, Arnaud Bédin nous rappelait tout à l'heure qu'il y a eu des images de caméras de surveillance, de vidéos de surveillance de Marseille, mais où on le voit lui, et pas les enfants, monter dans sa voiture ou sortir de sa voiture. Vous confirmez qu'on est sûr, en revanche, qu'il ait bien pris ce ferry pour la Corse.
Oui, tout à fait. Il a même pris des billets pour ses deux enfants. Il avait 3 billets pour le ferry. On le voit effectivement un distributeur de billets à Marseille, mais il est seul. On le voit dans un parking, à l'entrée du parking, mais on ne voit pas les fillettes. Et on avait des témoignages, je crois, d'une personne sur le ferry qui dit avoir entendu des bruits d'enfants dans une chambre.
Oui, on évoquait ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui.
Bah écoutez, des témoins sérieux, de bonne foi, mais on n'a pas pu le démontrer la présence absolue de ces deux fillettes. Ouais. Elles étaient peut-être bien avec leur père. Moi, j'ai une idée possible, hein, malheureusement, sur l'issue de cette affaire, mais sans, encore une fois, preuve absolue.
Ouais. Qu'est-ce que vous diriez alors? Parce que, évidemment, tous les scénarios ont été envisagés, qu'elles soient mortes très rapidement en Suisse, hein, sur le territoire suisse, ou quelque part ailleurs, en France, en France et en Corse, donc, ou en Italie, quoi.
Mais l'idée qui est la mienne, mais encore une fois, qui n'est étayée par aucun élément absolument définitif, c'est, et compte tenu du courrier que le père a laissé en disant que ses petites étaient dans un endroit paisible, et qu'on ne les retrouverait plus, l'idée que j'ai, c'est qu'il était bien avec elles à Marseille, qu'il les emmenait sur le ferry, et qu'il s'est débarrassé des deux fillettes durant la traversée. C'est au mois de janvier, hein, en pleine nuit, il a pu les endormir et à mon avis, il a pu les monter sur le bateau et les jeter par-dessus bord, ce qui expliquerait qu'on n'ait jamais retrouvé les corps.
Oui, bien sûr. Oui.
Et que lui explique par la suite qu'elles sont dans un endroit paisible. Alors, est-ce que la mer est un endroit paisible? Ça peut se discuter. Ouais. On a fait un gros travail d'enquête en Corse. Hein.
Oui.
On n'a pas pu démontrer qu'il avait enterré les enfants. Il n'avait pas des vêtements, d'ailleurs, maculés de terre, de choses comme ça.
Oui, parce que je vous interromps, Jacques Dallès, mais on disait tout à l'heure, on rappelait qu'en 2008, il avait fait avec Irina, il avait loué un voilier sur la côte d'Azur, là. Et ils étaient allés, justement, direction la Corse. Ils avaient passé pas mal de temps. Donc, en fait, les enquêteurs, là, à l'époque, ils refont le chemin qu'a fait le couple en 2008 pour voir s'ils ne seraient pas allés dans un endroit symbolique de ce moment de bonheur, quoi.
Oui, c'est ça. Il aimait bien la Corse. On sait qu'il est arrivé dans le sud de la Corse et très rapidement, il est parti, il est remonté dans le nord, à Bastia, d'où il a repris un ferry. On a essayé de voir si du trajet, alors évidemment, on connaissait la Corse, le maquis, il y a 1000 lieux possibles.
Oui.
Mais moi, avec la présence des chasseurs, des randonneurs, je suis quand même surpris qu'on n'ait pas pu retrouver les corps.
Oui,
je le vois mal en train de creuser une fosse très profonde. Moi, j'imagine plutôt le scénario d'une mort par-dessus bord durant la traversée, où là, il était absolument tranquille, personne ne pouvait le déranger. Encore une fois, nous sommes au mois de janvier, il fait froid, en pleine nuit. Voilà, c'est malheureusement la triste hypothèse qui est la mienne.
Arnaud Béda veut vous poser une question, je crois, ou vous dire quelque chose.
Oui, bah, d'abord saluer M. Dallest, nous connaissons un petit
Béda.
Peu. Hein. Moi, je ne partage pas la même intime conviction que vous. Je pense quand même que l'élément qu'à 13h le 30 janvier, Mathias Schepp est vu avec des chaussures pleines de terre et qu'il y a quand même beaucoup d'heures qui s'écoulent entre le passage de la frontière à 18h04 à Croix-de-Rozon, lui laisse quand même beaucoup de temps pour perpétrer son forfait en Suisse et ensuite pour bien brouiller les pistes. Voilà, enfin, c'est assez...
Bien sûr.
Je trouve ça très troublant quand même.
On ne peut pas écarter effectivement... Oui, on ne peut pas écarter cette hypothèse parce que traverser toute la France, prendre le bateau avec les petites alors qu'il peut se savoir rechercher, c'est assez exposé pour lui. On peut imaginer qu'elles étaient mortes et qu'elles étaient dans le coffre aussi, ce qui est aussi quand même risqué lorsqu'on fait un périple pareil. Mais l'hypothèse que vous évoquez est également possible. Qu'il les ait tués à Lausanne, enfin en Suisse, et qu'il soit venu seul par la suite dans cet itinéraire un peu surprenant, quitte à créer une espèce de fausse piste en prenant un billet pour les deux enfants, billet de bateau. Mais voilà, on ne peut avancer aucune explication rationnelle et aucune certitude. Voilà. C'est malheureusement le cas dans cette affaire.
Je vous remercie beaucoup, Jacques Dallès. Merci infiniment, parce que vous avez dirigé cette enquête pendant longtemps. Merci infiniment. On va faire une pause. Et Jacques Dallès faisait allusion il y a un instant à cette lettre de Mathias Schepp à son épouse. On a appris d'ailleurs tardivement l'existence de cette lettre. On y revient dans un instant. Mais malheureusement, le contenu de la lettre était très clair. On comprenait qu'il avait tué ses enfants.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Donc on revient à cette série d'enquêtes, ces enquêtes suisses, françaises et italiennes. On va parler de ce qui s'est passé en Italie dans un instant, mais Jacques Dallest faisait allusion à cette lettre reçue par Irina, la mère des enfants. On va entendre un document, on va vous entendre, Raphaël Vantard, parce que c'est vous. Le 11 février, on apprend, c'est un rebondissement dans l'affaire, que la mère des jumelles a reçu, effectivement, mais sans en parler publiquement dans un premier temps, une lettre de son mari qui laissait peu d'espoir de retrouver les deux fillettes vivantes. Alors, on vous écoute à l'époque, c'était dans le journal de Laurent Bazin et Elisabeth Martichoux, donc aux alentours de 12h30, puis après, on en parle ensuite.
Juste avant son suicide, que Mathias Schepp, le père des deux jumelles, envoie 8 lettres depuis la petite ville de Cerignola en Italie. Dans 7 de ces lettres, il y a les 5000 euros qui restent de son macabre périple. Et puis, dans la dernière, il y a ce courrier laconique envoyé à la maman Irina, mais un courrier lourd de sens. Mathias y dit les mots suivants. Les filles reposent maintenant en paix. Elles n'ont pas souffert. Tu ne les reverras jamais. Une lettre testament qui ne laisse plus guère d'espoir de retrouver désormais Alicia et Livia vivantes.
C'est affreux. Ça veut dire aussi que la mère était au courant depuis mardi qu'elle a lancé cet appel à témoins vibrant en sachant que ses enfants étaient probablement mortes.
Et oui, tout à fait. Les enquêteurs et la famille avaient connaissance de cette lettre depuis mardi après-midi. Malgré ces mots alarmants sur cette lettre, ils ont voulu continuer dans les médias les multiples appels à témoins pour retrouver les deux fillettes vivantes. Pour la police suisse, il était important de ne pas révéler tout de suite cette information au public pour continuer à avoir des témoignages et pour localiser les filles. La famille a même participé mardi soir à une grande émission sur la chaîne italienne Le Perdu de Vue. De son côté, cette famille aujourd'hui a quitté la Suisse sans autre commentaire.
Alors Raphaël Levantin, vous venez de vous réécouter. Alors il y a cette lettre, il y avait plusieurs messages et puis il y a toute une série de lettres qui sont arrivées, mais c'est plus tard.
Effectivement, c'est ce qui est terrible en fait dans cette affaire, c'est que Mathias va envoyer toujours des petites missives au fur et à mesure de son périple. Il en envoie une première à Marseille, une carte postale dans laquelle il évoque son malaise avec le divorce, avec Irina.
Il dit « je
ne peux pas me passer de toi, c'est terrible ». Et ensuite, il renvoie une série de lettres juste avant de se donner la mort, dans laquelle il glisse par coupure de 5 ans tout l'argent qu'il a retiré à Marseille. Et puis, cette fameuse grande lettre un peu plus nourrie, dans laquelle il évoque clairement le destin de ses deux enfants, avec des mots assez durs quand même, puisqu'il dit aussi cette phrase, ils sont enterrés dans un lieu en paix, tu ne les reverras jamais. Cette phrase, elle est aussi terrible, tu ne les reverras jamais.
La question que je vais vous poser, là, je vous la pose à tous les deux, Arnaud Bédin et Raphaël Vantard. En écoutant d'ailleurs tout à l'heure Jacques Dallès dire il a peut-être fait exprès de prendre 3 billets pour qu'on pense qu'il a pris le bateau avec les enfants, à quoi rimerait peut-être aussi que Ludivine, vous avez une idée sur la question, mais qu'est-ce qui se passerait dans la tête de cet homme qui ne menace pas sa femme de tuer les enfants, qui lui écrit après coup? Pourquoi bâtir un scénario? Pourquoi bâtir un jeu de pistes?
C'est un jeu de pistes terrible, c'est pour faire souffrir Irina, évidemment, un maximum, mais pour brouiller, encore aujourd'hui, 5 ans après, vous voyez, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a plein de portes qui sont ouvertes et qui ne sont pas fermées, et c'est une véritable souffrance par la mer. Si on savait où chercher, mais on ne sait pas où chercher, c'est ça le grand drame.
Tout remonte à leur histoire, en fait, finalement. Le périple en Corse, c'est l'endroit où ils ont vécu les meilleurs moments ensemble, en famille, et l'endroit où ils se suicident, on est à 200 km de l'endroit où ils se sont mariés avec Irina, l'endroit où presque ils se sont connus aussi, quoi. Donc tout tourne autour de leur histoire et quelque part il veut tuer Irina. Clairement, il tue ses enfants, mais il veut la tuer au moins en son âme, quoi.
Ludivine Makanda.
Oui, c'est vrai que c'est malheureusement le type d'actes ou de façons de faire qu'on peut voir aussi dans certains dossiers qu'on suit. C'est une façon pour certains parents d'exprimer leur mal-être, mais aussi pour exprimer ce fait qu'ils n'arrivent pas à passer au-delà de cette étape qui pour eux est une rupture trop dure à vivre. Mais au-delà de la rupture seulement amoureuse, mais c'est vraiment la rupture d'une partie de leur vie sur laquelle ils n'arrivent pas à faire une croix dessus, tout simplement.
Ouais,
c'est une façon d'atteindre leur ex-conjoint, de passer par les enfants, car ils connaissent l'attachement qu'ils ont pour leurs enfants.
D'ailleurs, Irina est allée physiquement en Corse, à la demande certainement des enquêteurs qui voulaient...
Elle a remué ciel et terre, vraiment.
Oui, vraiment, et on l'a appris, je crois que c'est le 14 février, donc, elle est en Corse, et... Vanina Leca, qui est donc notre correspondante là-bas, fait le point sur cet aspect de l'enquête sur RTL. Écoutez.
La mère des jumelles aura passé 4h30 dans l'hélicoptère de la gendarmerie, 4h30 à survoler l'île à très basse altitude de l'extrême sud à la pointe du Cap Corse. Les enquêteurs attendaient de sa part un déclic, mais rien de vraiment décisif ne semble être ressorti de cette journée. À l'issue des repérages, serrant dans ses mains les doudous de ses filles, Irina Lucidi a simplement tenu à renouveler son appel à témoins.
C'est une journée longue et difficile, mais je voudrais aussi renouveler mon appel à toute personne qui aurait pu voir mes filles. Même si ça vous semble ne pas être un élément très important ou déterminant, n'hésitez pas à en parler à la police.
Les enquêteurs semblent désormais dans l'impasse. Une partie des témoignages a même été écartée. La thèse d'une éventuelle complicité reste envisagée, mais elle n'est plus privilégiée. La maman des jumelles a, elle, quitté la Corse dans la soirée, probablement en direction de l'Italie.
Alors justement, l'Italie, on peut maintenant en parler avec vous deux, Raphaël Vantard et Arnaud Bédard. Qu'est-ce qu'on sait exactement de son périple italien ? L'un ou l'autre, je ne sais pas qui veut
alors,
le dire.
Alors on sait qu'il mange, il passe le péage, puisqu'il y a une photo qui est prise au moment où il passe le péage à Nice, et qu'il rentre en Italie. Ensuite, il prend la direction de Naples, où il va manger une dernière pizza, avant de se jeter sur les rails d'un train à Cerignola. Et là, on est à quelques... on est à 200 km de l'endroit où vit depuis des décennies la famille de son épouse.
Vous disiez,
il poste encore une lettre avant de se suicider depuis l'Italie, depuis Cerignola. Ouais. Et on sait qu'il a beaucoup bu avant de se jeter sous le train.
Ah oui, on le sait à cause de l'autopsie. Oui.
Et ce qui est troublant aussi, c'est que jusqu'au bout, il va essayer de continuer cette espèce de jeu de piste en essayant de dissimuler avec lui la carte de son GPS qu'on va retrouver, qu'on va mettre du temps à retrouver. Et il va essayer presque de la détruire et de l'emmener avec lui pour qu'on n'arrive pas à retracer intégralement l'itinéraire.
Mais à ce propos, c'est un document que je voulais qu'on réécoute aussi, le dernier d'ailleurs, qui remonte au 6 mars 2011, parce que c'est pour les enquêteurs, c'est un vrai espoir nouveau, parce que ils viennent de mettre la main sur cette puce de GPS, et évidemment, tout le monde espère qu'elle va pouvoir donner des informations précieuses. C'est ce que nous expliquait dans une correspondance, notre correspondante à Rome, Anne Lenire.
La puce électronique du navigateur satellitaire de Mathias Schepp a été retrouvée sous un tas de pierres à 15 mètres du lieu de son suicide, à Cerignola, au sud de l'Italie, là où il s'est jeté sous un train la nuit du 3 février. La police italienne s'apprête à l'expédier à la maison mère du fabricant américain pour des analyses qui pourraient se révéler très précieuses. En effet, si la puce n'est pas endommagée, il devrait être possible de retracer avec précision l'itinéraire parcouru à bord de l'Audi A6 par le père d'Alessia et Livia entre le jour de leur enlèvement, le 30 janvier, et son arrivée à Cerignola, le 3 février. Selon les enquêteurs italiens, une des pistes qui doit être méticuleusement creusée concerne les parcours qu'aurait effectué Mathias Schepp en Suisse, non loin de son domicile, dans la journée du 30 janvier.
Alors là, Raphaël Vantard, puisque vous parliez de cette puce, ce qui est aussi curieux, c'est que malheureusement, les analyses n'ont rien donné, parce que la puce était vraiment endommagée, mais cachée quand même quelque part.
Effectivement,
c'est encore une énigme, ça.
C'est une énigme de plus. Il y a un autre appareil dont Mathias ne se séparait jamais, c'est un enregistreur sur lequel il se servait comme agenda. On va retrouver l'enregistreur. Je crois qu'on n'a jamais retrouvé la cassette de l'enregistreur. Ouais. C'est pareil. Faire détruire toute tous les indices qui auraient pu nous mener aux deux fillettes.
Pour un enquêteur, il ouvre des portes en permanence et que les enquêteurs n'arrivent jamais à fermer et à classer. Donc c'est là qu'il a été particulièrement pervers et machiavélique.
Oui. Alors on dit que l'émission, on parlait du perdu de vue italien, on connaît un petit peu la question, qu'il a visto, continue à faire régulièrement des émissions hein, pour, dans l'espoir que quelqu'un puisse apporter une information. Je crois que ils ont obtenu des témoignages, mais ce ne sont encore des témoignages l'année dernière ou l'année d'avant. Quoi, en fait. Qu'est-ce que vous pensez tous les trois de cette hypothèse que les enquêteurs ont imaginée peut-être n'a-t-il pas tué ses enfants, peut-être a-t-il donné de l'argent, alors, à qui ? À une famille, connue, pas connue, pour leur confier... C'est possible d'imaginer ça, Ludivine ?
C'est tout à fait possible. Après, toutes les hypothèses sont possibles. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que dans tous les cas que l'on a pu voir comme cela, on n'a aucune connaissance de ce qui est advenu de ses enfants. Tous les cas qu'on peut avoir où les parents.
Ils sont nombreux, ces cas
Des cas où on n'a vraiment plus du tout de signes de vie, en tout cas que nous, on peut suivre, on en a une dizaine. Ouais. Voilà, après, c'est pas énorme, mais après, c'est ce dont nous avons connaissance. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a où ça va faire plus de 9 ans que certains parents n'ont aucun signe de vie de leur enfant, ni même de l'autre conjoint, donc on ne sait pas s'ils sont morts, vivants, si l'enfant a été confié ou pas, mais c'est une hypothèse qui existe. Mm-hmm. Et que certains parents, auxquels certains parents se raccrochent aussi, qu'il y a bien entendu ce besoin d'espérer.
C'est de l'espoir, quoi, voilà.
Exactement. Ouais.
Alors, on va se retrouver dans un instant, ensemble, pour parler de cette journée internationale de l'enfance disparue, mais juste une dernière fois. Donc cette hypothèse-là, Raphaël Vantard, Arnaud Béda, elle vous paraît pas...
Moi, ça me paraît hautement improbable, parce qu'il y a quand même un périple qui est très long, qui traverse 3 pays, et voilà, je pense que ces enfants, s'ils avaient été confiés à un tiers, à un moment donné, on aurait retrouvé la trace. Et quelque part, encore une fois,
imaginez que quelqu'un sait quelque chose sans rien dire, c'est plus possible.
Le seul moment où on est sûr d'avoir vu ces fillettes, c'est en Suisse. Après, c'est très
difficile. Je rejoins tout à fait ce que dit Raphaël.
Alors, une pause, la dernière, dans l'émission, la voici. Et puis, ensuite, nous nous retrouvons avec mes invités et avec Ludivine Makanda, qui est, comme je le disais au début de l'émission, juriste chargée de dossier pour le 116 000 enfants disparus. On va parler d'abord de l'existence de ce numéro qui est important, évidemment, à rappeler à tout le monde. Et puis, qu'est-ce que peut faire ce qu'on a aux 116 000 enfants disparus en cas d'enlèvement parental. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors on retrouve mes invités et avant toute chose, Ludivine Makanda, parce que je tenais beaucoup à ce que nous finissions cette émission en parlant du 116 000 enfants disparus. D'abord parce qu'il faut faire connaître l'existence de ce standard, alors qui est un standard européen. En fait, c'est un numéro qui fonctionne H24, comme on dit,
c'est
7 jours sur 7.
Exactement, et qui existe dans 29 pays européens aujourd'hui, qui a été fait à l'initiative de l'Union européenne, notamment de la Commission européenne, qui a été mise en place. En fait, il existait déjà dans certains pays en Europe, notamment en France. Mmh. Il existait sous le nom SOS Enfants Disparus, qui était tenu par la Fondation pour l'Enfance, qui est une fondation de Madame Mitterrand. Et donc, qui sont rendus compte que ce phénomène existait partout en France, partout en Europe, de cette question des enfants disparus, notamment des enlèvements parentaux. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2012, que la Commission européenne a créé ce numéro vert pour ces
cas-là. Alors pourquoi justement ? Pourquoi ? Parce que c'est pas de l'alerte, sinon on appelle la police, quoi. Si on est au cœur de l'événement, c'est pourquoi ? Pour prévenir
ou pour accompagner
les familles. D'accord.
Oui. Dans un premier temps, c'est pour accompagner les familles qui justement ne trouvaient pas obligatoirement les interlocuteurs vers qui se tourner. Oui. Savoir quand aller voir les services de police, pourquoi faire, comment leur expliquer les choses. S'il faut saisir un juge, comment est-ce que cela se fait ? S'il faut aller voir un juge d'affaires familiales, un procureur. Voilà, c'est les différentes choses qu'ils ont la possibilité de mettre en place, notamment dans les cas d'enlèvements parentaux et les enlèvements parentaux internationaux, c'est comment utiliser ces conventions internationales qui existent sur la question des enlèvements parentaux internationaux, par exemple.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc nous, on a été mis en place notamment pour cela, donc on accompagne, on conseille les parents tout au long voilà, de l'absence de leur enfant.
Oui, alors vous, c'est CFPE Enfants Disparus, c'est l'association à qui on a confié la gestion de ce dispositif-là. Et exactement. Quelles sont les autres activités de cette association alors ?
Alors, donc, on fait du conseil juridique dans un premier temps, après on fait aussi du suivi psychologique. Oui. Et on fait aussi de la sensibilisation du grand public, donc par des spots publicitaires qu'on peut voir en ce moment, notamment autour des fugues. Oui. Après, on a aussi la sensibilisation des professionnels. On fait des formations auprès des services de police, dans les écoles de gendarmerie, alors, sur ces questions-là, sur comment réagir quand on a un parent qui nous signale ces faits-là, pour notamment ne pas avoir la question, ce fameux verbatim qu'on a entendu plus tôt sur « vous inquiétez pas, il ou elle va revenir avec les enfants ». Voilà, c'est sur ces choses-là, mais aussi au niveau des avocats aussi, qui ne sont pas obligatoirement tous formés dans ces questions-là.
Qui enlève préférentiellement les enfants, les hommes ou les femmes ?
On a exactement les deux, c'est presque la même chose côté hommes et côté femmes, en tout cas sur les dossiers qui arrivent jusqu'à nous.
Ouais. Cette journée internationale des enfants disparus, c'est son sens, c'est quoi ? C'est de rappeler d'abord que c'est un vrai problème. C'est ce chiffre par dizaines, par centaines, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Aujourd'hui, les enfants disparus, on recense tant le côté disparition inquiétante, enlèvement parentaux que fugue. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 000 enfants qui sont inscrits au fichier des personnes recherchées. En tout cas, en 2015.
Sur l'ensemble des 29 pays ?
En tout cas, en France.
50 000 enfants, c'est énorme.
C'est ça, officier des personnes recherchées. Ouais. Ouais. Après, on en a un tiers qui est retrouvé dans les 48 heures.
Heureusement,
on a un tiers dans les 3 mois et un tiers qui ne sont pas obligatoirement retrouvés.
Ah, d'accord.
Ah, donc, c'est vrai que ça fait un phénomène qui, finalement, n'est pas assez connu en France. Ouais. Et cette journée des enfants disparus, elle a été mise en place pour ça, notamment, pour qu'elle soit beaucoup plus connue partout dans le monde et notamment pour éveiller la sensibilité tant des professionnels que du grand public. Oui. Et c'est pour ça notamment qu'on met en place demain ce colloque les disparitions inquiétantes de mineurs en France et en Europe.
Et c'est un colloque qui a lieu au ministère de la Santé. Et ceux qui vous écoutent en ce moment peuvent s'inscrire. L'entrée est libre, à condition de s'inscrire.
Exactement.
On va sur Internet à ce moment-là.
C'est ça. Sur notre site Internet, vous tapez 116 000 enfants disparus. Sur la première page, vous avez la possibilité de vous inscrire pour le colloque. Et il y aura l'intervention notamment de Madame la Ministre de la Famille demain en ouverture du colloque.
Bah, merci beaucoup Ludivine Macanda, merci d'avoir donné ce coup de projecteur sur le 116 000 enfants disparus. Merci beaucoup Arnaud Bédard et Raphaël Vantard qui est venu en voisin. L'émission est terminée. Je voudrais signaler, puisqu'on a eu Jacques Dallest au téléphone tout à l'heure, il avait été l'invité de notre émission il y a pas mal de temps, quand il avait publié Mes homicides, c'est une sorte de livre de souvenirs, de mémoire d'un procureur de la République. Et ce livre, Mes homicides, qui est vraiment passionnant, vient de sortir en poche chez Pocket. Je voulais vous le signaler au passage.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.